18h02, c'est l'heure du tour d'horizon du coronavirus par Patrick Derry. Salut Patrick.
Salut monsieur.
Donc, OK, premier sujet, on va parler de ce qui se passe ailleurs, mais commençons par parler rapidement de l'Europe.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la France a rouvert aujourd'hui ses frontières aux pays membres de l'Union européenne et elle va faire la même chose pour le reste de l'Europe dans 2 semaines. L'Allemagne aussi, l'Espagne qui va suivre et plusieurs autres pays vont le faire en Europe. Sauf que dans le détail, c'est un petit peu plus compliqué parce que il y a beaucoup d'exceptions. Hein, par exemple, la Suisse a gardé la frontière avec l'Italie fermée parce qu'elle considère que ça présente encore un risque, même si l'épidémie a ralenti. La Norvège a fait la même chose avec la Suède. On sait que c'est un pays qui est encore gravement touché, qu'il y a beaucoup de nouveaux cas chaque jour. L'Autriche, elle, va rouvrir ses frontières avec une 30aine de pays, mais pas le Portugal, l'Espagne, la Suède ou le Royaume-Uni. Fait qu'il y a toutes sortes d'aménagements comme ça. Il y a beaucoup de pays, d'ailleurs, qui gardent leurs frontières fermées avec la Suède et le Royaume-Uni. D'autres, encore comme la France, qui font, c'est qu'ils exigent une quarantaine de 14 jours pour les Britanniques, ce qui se trouve à finalement éliminer les séjours touristiques. Pourquoi je voulais parler de ça? Parce que notre capacité à contrôler la pandémie pourrait possiblement affecter la reprise des séjours vers l'Europe, par exemple. Autrement dit, c'est difficile d'imaginer qu'on va nous accueillir à bras ouverts si Montréal restait encore un des lieux chauds de la pandémie en Occident. Et présentement, là, même si ça a beaucoup diminué et ça va dans la bonne direction, le Québec rapporte autant de nouveaux cas que le Royaume-Uni proportionnellement. Et il y a vraiment pas longtemps, il y a 2 semaines, on en rapportait même plus. L'autre raison pour laquelle je voulais parler rapidement de l'Europe, c'est parce que pendant qu'ici et en Europe, on respire et qu'on reprend notre vie normalement, là, plus ou moins tranquillement, la Chine, elle, est en train de se remettre sur un pied de guerre.
C'est ça, hein, parce que là, on a vu des nouveaux foyers d'éclosion en Chine, à Pékin cette fois-ci.
Oui, c'est ça. C'est pas dans le Wuhan d'où origine la pandémie. C'est une région qui était relativement peu touchée. Hein. À Pékin, ils ont eu quelques centaines de cas, une dizaine de morts, selon le bilan officiel. On a découvert aujourd'hui 50 nouveaux cas à Pékin, 100 depuis jeudi dernier. Ça paraît pas beaucoup dans une ville d'une vingtaine de millions d'habitants, mais c'est parce que ça faisait 2 mois qu'on n'avait vu aucun cas de transmission communautaire à Pékin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les nouveaux cas sont liés à un marché alimentaire qui est situé dans le sud-ouest de la ville. Et quand on parle de marché alimentaire, là, c'est pas le métro du coin, là, c'est un énorme marché où il y a des milliers de gens qui travaillent et ce marché-là fournit la plupart des fruits et légumes de la ville. Et l'éclosion s'est déjà répandue dans 2 provinces voisines où on a trouvé quelques cas, pas beaucoup, mais qui provenaient quand même de contacts avec des gens infectés. Fait que la réponse de la Chine, évidemment, c'est une réponse qui est, je dirais, là, colossale.
Ouais. C'est un des rares moments où c'est peut-être un avantage d'être une dictature.
Disons qu'il n'y a pas beaucoup de négociations, puis il n'y a pas beaucoup de recherche de consensus. Les responsables, il y a une vice-première ministre qui a évalué que le risque que l'éclosion s'étende était considéré comme très élevé du point de vue des autorités.
Est-ce qu'on sait ce coup-ci d'où vient le virus? Ça vient-tu de Chine ou est-ce qu'il frappe à Pékin?
C'est exactement, je m'en allais. C'est un détail qui est assez ironique. C'est le virus qui est à l'origine de l'éclosion serait venu d'Europe. Donc, c'est un peu le monde à l'envers. Hein. C'est parti de la Chine pour se rendre en Europe. Là, c'est en train de revenir par l'autre côté. Ça montre qu'une pandémie, ça nous réserve énormément de surprises. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain à Pékin? C'est qu'on a pu voir des militaires qui circulent dans la ville. Il y a 21 quartiers de la ville qui ont été placés en quarantaine. Donc, toute la partie sud, on ne peut pas entrer ni sortir. C'est seulement possible de se faire livrer des colis. Il y a 100 000 employés de la santé publique qui ont été déployés là, pour le dépistage notamment, et le gouvernement parle d'un champ de bataille, c'est l'expression qu'ils emploient. 200 kiosques de dépistage qui ont été installés en quelques jours. Seulement dimanche, on dit qu'il y a près de 80 000 personnes qui ont été testées. Fait que quand on parle de réponse autoritaire, là, des fois, c'est vrai qu'il y a des avantages. Évidemment, la Chine, c'est un gros pays, ils ont des moyens aussi. Oui. Fait qu'ils ont recueilli des échantillons des employés qui travaillaient au marché, ils ont retracé des clients. Écoute, c'est vraiment une réponse très, très forte.
OK. Et là, on va parler de un autre type de menace. OK. Il y a la menace du coronavirus là, qui revient dans beaucoup de pays de l'hémisphère sud, la Chine, mais aux États-Unis, dans l'État de New York qui a été durement frappé, la menace commence à reculer, sauf que la menace vient de Andrew Cuomo, le gouverneur de l'État de New York.
Oui, il veut se faire plus menaçant que le virus parce que les gens, semble-t-il, n'ont pas assez peur du virus. Donc, le beau temps est de retour ici, mais il revient à New York et les New-Yorkais, comme nous, sont contents de pouvoir sortir, prendre l'air. On sait que c'est une des villes qui a été les plus touchées au monde. Ils ont un bilan, là, ils ont eu au-dessus de bien au-delà de 1000 décès par million d'habitants. Par contre, le problème, c'est qu'ils prennent un peu trop de liberté au goût du gouverneur. Pour rappel, le déconfinement avait commencé dans la ville de New York lundi dernier. Ailleurs dans l'État, c'était un petit peu plus tôt. Et ce qu'on a rouvert à New York, donc, la construction, le manufacturier et certains commerces, et si tout se passe bien, dans une semaine, ça va être les terrasses des restaurants qui vont être ouverts, entre autres, et les espaces à bureaux. Le problème, c'est que il y a beaucoup de restaurateurs qui ont décidé de ne pas attendre et qui ont commencé à se servir des repas dehors, sur les terrasses. Ça fait l'affaire de beaucoup de clients, mais ça mécontente aussi beaucoup de gens, dont le gouverneur. L'État de New York a reçu 25 000 plaintes pendant la fin de semaine en raison du non-respect des précautions, donc la distanciation, et aussi le port du masque est obligatoire dans les lieux publics. Et si vous avez vu des photos de New York là, pendant la fin de semaine, là, c'est pas une question d'angle de caméra. Il y a beaucoup de rassemblements, les gens sont nombreux. On dirait que tout est reparti.
Est-ce que tu as vu la nouvelle selon laquelle Cuomo a personnellement appelé des propriétaires de bars et de restaurants pour leur dire « Agissez parce que vous êtes en train de jouer avec votre permis d'alcool. »
Oh boy, non, oui. j'ai pas vu ça.
Écoute, il a fait ça, là, c'est sorti à New York en fin de semaine. Il appelait les tenanciers pour dire « Si vous n'êtes pas plus discipliné, on va vous enlever vos permis. »
Écoute, je ne sais pas si c'est ce que ça prend, là, mais on voit vraiment quelqu'un qui est très, très inquiet. Puis, tu sais, il était excité à dire aussi, s'il y a une deuxième vague qui arrive, c'est qu'il est trop tard. Fait que lui, il veut la prévenir. Et il est probablement qu'il jette un œil à d'autres endroits aux États-Unis, au Texas notamment. Dans l'État du Texas, le nombre de nouveaux cas et le nombre d'hospitalisations a vraiment explosé depuis 3 semaines alors qu'on a allégé le confinement. Et à Houston, qui est une des 2 grandes villes de l'État, là, autour de 7 millions d'habitants, là, donc c'est beaucoup plus gros que Montréal, on parle d'un cas d'orange, qui signifie un niveau de transmission qui est incontrôlé dans l'État. Donc, on a l'impression que c'est fini sur la côte Est puis sur la côte Ouest, mais les États-Unis, c'est un grand pays. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, tu sais, avec la Chine, l'Europe, ça va dans toutes les directions. T'sais, ici, on reprend nos vies. En Chine, on tente de mettre le couvert très, très, très rapidement sur une éclosion dans une ville de 20 millions d'habitants qui pourrait être très dommageable. À New York, on avance avec prudence et le gouverneur est manifestement inquiet. Et au Texas, sans faire de mauvais jeu de mots, là, on a peut-être été un peu trop cow-boy, puis on va possiblement en payer le prix, puis tu sais, ça pourrait recommencer.
OK, troisième sujet. Quels pays ont bien géré la crise? C'est quoi les modèles?
Bon, écoute, dans ce cas-ci, c'est un sondage, donc c'est une question de perception. Il y a un sondage mondial qui a été réalisé pour un organisme qui s'appelle l'Alliance des démocraties afin de comparer l'opinion publique pendant la pandémie. Donc, ça a été réalisé ce printemps. On a demandé à 124 000 personnes résidant dans 53 pays s'ils étaient satisfaits ou non de la réaction de leur gouvernement face à la COVID-19. Et bon, il y a plusieurs données intéressantes qui ressortent. D'abord, le taux de satisfaction est à peu près aussi élevé dans les démocraties que dans les non-démocraties. Parmi les pays développés, donc comparables à nous, les gens sont les plus contents de la réponse du gouvernement. On retrouve principalement des pays où ça s'est bien passé, donc l'Australie, Taïwan, l'Autriche, la Corée du Sud, la Norvège, avec un taux de satisfaction de plus de 70%, parfois plus de 80%. Parmi les pays moins satisfaits, ben il y a des pays durement frappés comme le Brésil, le Chili, l'Espagne, les États-Unis, l'Italie. Là, à ce moment-là, les taux de satisfaction sont beaucoup plus bas, 50-60%. Même chose pour le Royaume-Uni et la Belgique. Il y a des exceptions, c'est là que c'est intéressant. La Suède, un pays où ça va pas très bien, sont vraiment à la traîne de l'Europe, sont quand même pas très loin des plus satisfaits. L'Inde et l'Afrique du Sud aussi font assez bien avec un bilan qui risque de se détériorer fortement au cours des prochaines semaines. Par contre, à l'opposé, tu regardes la Pologne et Hong Kong avec qui ont seulement la moitié de la population qui se dit satisfaite du travail de ses dirigeants. Puis c'est des pays où ça s'est quand même beaucoup assez bien passé, même beaucoup mieux qu'ici.
C'est surprenant parce que Hong Kong, Patrick, c'est vraiment un modèle. Mais il me semble que j'ai lu que le peuple est allé au-delà, au-devant des actions gouvernementales au début, là, semble-t-il.
Oui, il y a des phénomènes culturels qui sont là aussi. Par exemple, la plupart des pays d'Asie, le masque n'a pas été rendu obligatoire parce que les gens le portent d'office, sont sensibilisés à ça. Ils ont vécu des épidémies passées et ils étaient, contrairement à nous, vivants pour l'avoir vécu, donc ils s'en souviennent. Puis, ça peut aussi refléter des situations politiques particulières. Hein. Si le gouvernement est populaire d'avance, mais les gens vont continuer à l'appuyer. C'est sans doute le cas en Inde et en Afrique du Sud. À l'inverse, si les gens n'aiment pas leur gouvernement, c'est probablement le cas à Hong Kong, qui ont connu des régimes, disons, plus libéraux dans le passé, ben ils seront pas plus heureux, même si les résultats sont bons, et surtout à plus forte raison, s'ils jugent qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, puis que le gouvernement n'a rien changé. Le Canada, lui, se situe où là-dedans? Très haut. 84 % des gens se disent satisfaits. Mais évidemment, nous, restant ici, on sait que le bilan varie beaucoup d'un océan à l'autre. Fait que j'ai voulu aller comparer avec un autre sondage qui a été réalisé par Léger là, tout récemment, au début juin, et qui ventilait par province. Puis ce qui est intéressant, c'est que le taux global de satisfaction il est à peu près le même là, dans le sondage là, international que dans le sondage ici, donc autour de 80 % Et ce qui est étonnant, c'est que les Québécois, malgré qu'on a de loin le plus lourd bilan au pays, sont plus satisfaits que la plupart des résidents des autres provinces. Il y a un taux de satisfaction de 84% face aux mesures prises par le gouvernement provincial. Donc, c'est très, très élevé. C'est à peu près aussi élevé que dans les Maritimes, où il ne s'est presque rien passé.
Puis de la Colombie-Britannique, qui est à 91%, puis c'est un succès gigantesque là-bas, là.
Oui, exactement. Ça, c'est le seul pays la seule province qui est nettement en haut, c'est en première position. Mais ce qui est étonnant, c'est qui est dans la cave. Et la dernière province, c'est l'Alberta, avec 72%, donc quand même nettement en dessous du Québec. C'est la province qui teste le plus au pays. Leur bilan il est exemplaire. Hein? Ils ont quelque chose comme 150 morts, en tout cas 7 fois moins de cas. Et 35 fois moins de morts que le Québec. Non, ils ont distribué 20 millions de masques. Écoute, mais la politique, parfois, c'est ingrat. On peut pas empêcher un cœur d'aimer, puis on peut pas le forcer à faire non plus.
C'est très curieux quand on décortique comme ça. C'est drôle. Oui. Ben, parce qu'on fait un lien avec la Suède, Patrick, on peut pas s'empêcher. Le bilan est pas très reluisant en Suède. Le gouvernement récolte quand même des taux de satisfaction importants. C'est quelque chose. Comme tu dis, on peut pas empêcher un cœur d'aimer.
Non, c'est ça. On a un gouvernement qui est très, très, très populaire, évidemment. Comme a déjà dit Robert Bourassa, 6 mois en politique, c'est une éternité. Que les choses peuvent changer, mais pour l'instant, ça va bien ici sur le plan politique.
Très bien. Bonne soirée, Patrick Derry. On se reparle demain.
À toi aussi.
18h, presque 15. Au retour, on va parler du retour du fameux camion VUS, le Bronco de Ford.